écoutez RFI, les 11h en temps universel, 13h à Paris. J'ai retrouvé ma voix, RFI Midi, présentée par Anne Cantner. Bonjour Anne.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Nous sommes ensemble pendant 2h30 avec nos correspondants, avec nos envoyés spéciaux sur tous les continents et à la une ce mardi 2 juillet, la politique en France. Dernières heures pour tenter de former un front républicain. Les candidats aux législatives doivent dire avant ce soir s'ils se désistent ou non pour faire bloc face au Rassemblement national. Et la ligne est encore bien floue dans le camp présidentiel. C'est plus clair à gauche et nous en parlerons avec le député sortant Arthur Delaporte, bien placé pour le second tour dimanche. On parle aussi de l'inquiétude, voire de l'angoisse suscitée par la montée en puissance de l'extrême droite française chez les médecins étrangers, dans le viseur du Rassemblement national et qui occupe presque un poste sur trois dans les hôpitaux du pays. Inquiétude aussi de plus en plus grande chez les LGBT.
Chaque pourcent que le Rassemblement national gagne, c'est des agressions supplémentaires.
Moi j'ai des amis qui là, particulièrement depuis les européennes et la dissolution de l'Assemblée nationale, se font de plus en plus insulter dans la rue. Donc ouais, clairement on a peur.
Témoignage à retrouver dans quelques minutes, juste après le journal. L'extrême droite qui progresse dans toute l'Europe. Et c'est même un dirigeant ultranationaliste qui occupe depuis hier la présidence tournante de l'UE. Viktor Orban en visite pour la première fois à Kiev aujourd'hui, alors qu'il s'est toujours efforcé de bloquer les livraisons d'armes européennes à l'Ukraine. On en parle dans une demi-heure. Au sommaire également, Donald Trump, considérablement renforcé par la décision de la Cour suprême hier. Les juges ont étendu l'immunité de l'ancien président et candidat à la présidentielle de novembre, ce qui écarte de fait la possibilité d'une condamnation avant cette date.
Maintenant, les Américains vont devoir faire ce que la Cour aurait dû vouloir faire et qu'elle n'a pas fait. Le peuple américain va devoir décider si le recours de Trump à la violence pour préserver son pouvoir est acceptable.
Réaction de Joe Biden qui parle même d'un dangereux précédent. De son côté, Donald Trump crie victoire et demande déjà l'annulation de sa condamnation dans l'affaire Stormy Daniels. Est-ce possible? La justice américaine est-elle impuissante face à l'ancien président? Nous poserons ces questions à notre invité dans un peu plus d'une heure et à 13h temps universel. Nous ferons le tour des nombreuses réactions politiques que suscite cette décision très controversée de la Cour suprême. Et puis le sport, bien sûr, dans RFI Midi. On parlera de l'Euro de football et du Tour de France. Première étape de montagne aujourd'hui pour les coureurs. On vous dit tout dans le journal des sports à midi et quart, temps universel. Voilà, vous avez le programme. Bienvenue.
RFI Midi.
Et tout de suite, comme chaque jour, l'essentiel résumé en 5 minutes. Bonjour Mayol de Charon.
Bonjour Anne et bonjour à tous.
À 5 jours du second tour des législatives en France, le flou persiste autour de l'organisation du débat télévisé entre les représentants des trois blocs.
Il est prévu demain sur BFM, mais ce n'est pas encore confirmé en raison d'un casting toujours incertain. Bonjour Raphaël Devolvé.
Bonjour.
Alors s'il n'y a pas de doute sur la présence de Jordan Bardella pour le RN et de Gabriel Attal pour le camp présidentiel, l'identité du représentant de l'Alliance des Gauches en revanche, n'est pas arrêté.
Oui, vous le savez, le nouveau Front Populaire, sans leader officiel, fait le choix d'envoyer un représentant différent à chaque passage télévisé. Ce fut l'insoumis Manuel Bompard, puis le socialiste Olivier Faure la semaine dernière. Et en principe, c'est au tour de l'écologiste Marine Tondelier. Oui, mais voilà, Jordan Bardella ne veut pas débattre avec elle, et BFM TV non plus, d'ailleurs, ne veut pas de la leader écologiste. La chaîne de télévision et le RN ont un point d'accord. Cela pose à leurs yeux un problème de représentativité. Les écologistes ont fait à peine 5% aux dernières européennes et n'ont pour ces législatives que 77 candidats pour le second tour. Jordan Bardella, lui, a clairement sa préférence. Il veut Jean-Luc Mélenchon face à lui. Il le désigne depuis dimanche soir comme son principal adversaire. Jean-Luc Mélenchon lui a répondu. Il se dit d'accord sur le principe, mais demande au président du RN de débattre avec un autre insoumis. Marine Tondelier n'en démord pas. Elle estime toujours que c'est à elle d'être en plateau demain soir. Le débat reste envisagé à 7h. Des discussions sont toujours en cours.
Merci Raphaël. Dévolvé, l'heure est au désistement pour faire barrage au Rassemblement National. Les partis sont en ordre de bataille. Donc avant ce second tour, 200 candidats se sont retirés sur plus de 300 triangulaires initialement prévus, majoritairement des représentants du nouveau Front Populaire. Les dossiers de candidature pour ces législatives doivent être déposés avant 18h en préfecture. Un nouvel épisode judiciaire dans l'affaire du mandat d'arrêt français visant Bachar el-Assad, le dirigeant syrien accusé de de complicité de crimes contre l'humanité pour des attaques chimiques menées en 2013 dans le pays. Bonjour Laura Martel.
Bonjour.
Le parquet général de la Cour d'appel de Paris vous a indiqué avoir déposé un pourvoi en cassation pour trancher la question de la validité juridique du mandat. Au cœur de ce débat, la question de l'immunité personnelle d'un chef d'État en exercice.
Oui, pour comprendre, retour en novembre dernier, après 3 ans d'enquête, des juges français délivrent un mandat d'arrêt contre Bachar el-Assad pour complicité de crimes contre l'humanité. Mais le parquet conteste alors la validité du mandat au nom de l'immunité absolue dont bénéficient les chefs d'État en exercice devant la justice d'autres pays. À l'époque, il explique qu'il ne s'agit pas de remettre en cause le fond du dossier, mais que soit tranchée la question juridique par une juridiction supérieure. C'est chose faite mercredi, la Cour d'appel écarte l'immunité d'Al-Assad, arguant que les crimes dénoncés ne peuvent être considérés comme faisant partie des fonctions officielles d'un chef d'État. Sauf qu'à peine validé voit donc là ce mandat à nouveau contesté, cette fois en cassation. Le parquet répète qu'il ne remet pas en cause l'existence d'indices graves et concordants, rendant vraisemblable la participation de Bachar el-Assad aux attaques, mais il veut que la plus haute juridiction tranche sur le droit. Le recours n'a donc pas de caractère politique, insiste-t-il. Et c'est pourtant bien le reproche que lui font les parties civiles. L'exécutif français a toujours craint que cette justice dite universelle, exercée par la justice française, soit un obstacle à la conduite diplomatique de la France, pointe ainsi Maître Bechtart. Maître Witt et Sulzer considèrent-elles inexplicable que le parquet se place une nouvelle fois du côté de l'impunité.
Merci Laura Martel. Dans l'actualité également, ce nouvel appel à la mobilisation des passagers du vol Paris-Bamako pour empêcher l'expulsion de Moussa, ce jeune Malien de 25 ans en France depuis ses 5 ans et sur le point d'être renvoyé au Mali. Vendredi dernier, les voyageurs avaient refusé de s'asseoir tant que Moussa sous escorte policière n'était pas ramené au sol. Un nouveau vol est programmé aujourd'hui, mais les forces de l'ordre refusent de communiquer les informations à son avocate Nina Galmo. Elle dénonce des pratiques illégales du personnel de centre de rétention.
Soit il part pour Bamako et on va continuer à se battre devant la cour administrative d'appel pour essayer de faire annuler l'OQTF et l'IRTF. Soit, je ne sais pas ce qui peut se passer à l'aéroport, mais pour X ou Y raison, il ressort de cet avion et il retourne en centre de rétention. En réalité, on n'a aucune information. Je suis allé hier en rétention, hier soir, j'ai été à 20h30 pour le voir. À ce moment-là, je demande au brigadier présent s'il y a un vol aujourd'hui, ils me disent non. Moussa était bien évidemment au courant de rien. Hein. Je précise que c'est un droit pour eux d'être avertis des vols, mais ils ne savaient rien hier soir. Et ce matin, tout le monde refuse de me répondre. On me dit que je n'ai pas le droit de connaître ces informations. Et on me répond finalement qu'il y a un vol à 11h pour Roissy, vol qui en réalité n'existe pas. On est typiquement dans ce qu'on appelle des pratiques de vol caché et on n'a aucune information.
Des propos recueillis par Amélie Beaucourt. Et un mot de sport pour terminer ce journal. La grande boucle de retour en France ce mardi après la victoire historique de l'Érythréen Binyam Girmay à Turin. Hier, le Tour de France entre enfin dans l'Hexagone à l'occasion de la 4e étape entre Pinerolo et Valoise en Savoie. Au programme de ces 139 km, le passage du col du Galibier à 2642 mètres d'altitude. RFI, 13h08 à Paris. RFI Midi continue avec Anne Cantner.
Merci Mayol de Charon. On vous retrouve dans 2 heures pour un prochain point sur l'actualité internationale. Et nous parlons de l'actualité en France, de la campagne pour les législatives, bien sûr. Nous sommes à 5 jours du second tour.
RFI Midi. La France à midi.
Et le grand sujet de la journée, c'est la question des désistements. Le premier tour dimanche a donné lieu à 300 triangulaires, c'est-à-dire que dans 300 circonscriptions, il y a 3 candidats au second tour, voire 4. Et pour empêcher que le Rassemblement national n'obtienne une majorité absolue, de nombreux responsables politiques appellent à faire barrage à l'extrême droite, à retirer systématiquement le candidat le moins bien placé pour n'en laisser qu'un face au RN. C'est ce que prône notamment le Parti Socialiste, dont fait partie notre invité, le député sortant Arthur Delaporte. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en ballotage très favorable dans la 2e circonscription du Calvados. Alors qu'il est 124 candidats de gauche ont fait savoir qu'ils se désisteraient, mais 69 dans le camp présidentiel, le Front républicain n'existe plus aujourd'hui ?
Je pense qu'il existe toujours, mais je crois qu'il a été fortement affaibli par celles et ceux qui, dans le camp présidentiel justement, ont cherché pendant 2 ans, à des fins électoralistes, à mettre un signe égal entre la NUPES, entre les socialistes, les communistes, les insoumis, les écologistes et le Rassemblement national, en prétendant qu'ils étaient le seul barrage à l'extrême droite. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que il y a un principe de réalité et que, par exemple, dans mon département, dans le Calvados, Elisabeth Borne bénéficiera, je l'espère, pour gagner contre le RN, du désistement d'un candidat insoumis qu'elle a tant conspué. Et donc, je dois le dire, moi, je n'ai évidemment aucune complaisance pour Elisabeth Borne. J'ai été l'un de ceux qui se sont opposés à la réforme des retraites, mais j'appelle à voter très clairement pour Elisabeth Borne dimanche prochain, parce qu'il en va de l'avenir de la République. Et j'aimerais qu'il en soit autant. Alors, je ne parle pas d'Elisabeth Borne parce qu'elle a été très claire, mais je parle des autres anciens ministres, par exemple, qu'il en soit de même pour tout le monde dans le camp présidentiel et dans la droite qui s'appelle républicaine, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas entendu cette même clarté que ce que nous montrons depuis dimanche dernier, par nos paroles, mais aussi par nos actes.
Mais pourquoi, à votre avis, qu'est-ce que le Front populaire n'a pas réussi à dire, à démontrer, pour convaincre tout le monde et tous les partis dits républicains, comme vous le dites, de rejoindre ce front républicain ?
Nous n'avons rien à démontrer. Écoutez, quand je vois, par exemple, dans la 14e circonscription des Bouches-du-Rhône, un ancien député socialiste qui est en deuxième position. La députée sortante de la majorité présidentielle est-elle en troisième position ? Et à ce stade, elle refuse de se retirer alors que celui qui est en tête, c'est le Rassemblement national. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'un ancien député socialiste, il menace en quoi que ce soit la République. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le Rassemblement national menace la République. Et donc, cette confusion dans les esprits, elle n'est pas de notre côté, elle est finalement dans l'esprit de certains membres. Et encore une fois, je ne mets pas tout le monde dans le même camp, du camp présidentiel ou de la droite. Ceux qui ont mis un signe égal se sont fortement trompés. Et il le voit aujourd'hui. Il le voit, par exemple, comme ce qui s'est passé ce matin à Caen, quand une candidate du Rassemblement national doit retirer sa candidature parce qu'on n'avait jamais vu sa tête, mais que quelqu'un a retrouvé une photo d'elle avec une casquette nazie sur la tête. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on a des candidats du Rassemblement national qui sont problématiques, qui sont révélateurs de ce que nous dénonçons depuis toujours, à savoir d'une idéologie raciste, antisémite, anti-républicaine, qui est parfois masquée, mais qui, dans la réalité, quand on creuse un peu derrière le vernis des cravates, se refait très vite surface.
Alors, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. Ce qui pose problème, en effet, ce n'est pas vraiment le Parti socialiste. Le parti qui est le plus pointé du doigt, c'est la France insoumise, qui est soupçonné parfois, et c'est aussi entretenu par un certain nombre de responsables politiques, d'antisémitisme. Qu'est-ce que vous pouvez répondre au niveau du Front populaire, de la coalition qui a été formée par tous les partis de gauche ?
Déjà, je vous réponds que nous avons tous collectivement signé une charte contre l'antisémitisme et que par ailleurs, je vous mets en demeure de trouver des candidats qui ont été condamnés pour des propos antisémites. C'est le cas au Rassemblement national. Ça a été le cas pour Jean-Marie Le Pen à plusieurs reprises. Donc vous voyez bien qu'aujourd'hui, en fait, certains ont cherché à inverser les choses dans une logique électoraliste, je le redis encore une fois, du camp présidentiel qui voulait se distinguer, à mettre tout le monde dans le même paquet. Mais ce que je constate, c'est que s'il y a pu avoir des propos qui, pour ma part, je les ai condamnés, je les ai dénoncés, qui étaient particulièrement ambigus chez certains, encore une fois, de LFI, mais pas dans l'ensemble des députés LFI, nous sommes structurellement antiracistes. Nous sommes structurellement luttant contre l'antisémitisme.
Vous le dites, en fait, ce sont seulement certaines personnalités qui sont concernées, et notamment Jean-Luc Mélenchon, qu'on voit encore beaucoup dans les médias. Est-ce que le nouveau Front populaire va pouvoir parler d'une seule voix et peut-être faire en sorte que Jean-Luc Mélenchon soit moins visible jusqu'à la fin de la campagne ?
Non mais vous ramenez encore une fois le truc sur Jean-Luc Mélenchon, mais on sait très bien aujourd'hui qu'il n'y aura pas une majorité de députés insoumis à l'Assemblée nationale. Le sujet, c'est est-ce qu'il y a une majorité ou non de députés du Rassemblement national. Et par ailleurs, je le redis, le programme que nous défendons, le programme que défend Jean-Luc Mélenchon, c'est un programme qui a fait de la lutte contre l'antisémitisme l'une de ses priorités. Donc il faut vraiment.
Mais de fait, beaucoup d'électeurs de gauche considèrent que Jean-Luc Mélenchon parasite la campagne, même des gens qui soutiennent le nouveau Front populaire.
Évidemment qu'il parasite la campagne. Évidemment que moi j'ai dit que Jean-Luc Mélenchon était une personnalité clivante, mais le sujet, c'est pas ça. Et c'est ce que je passe mes journées à dire aux électeurs. Et voyez, vous revenez encore une fois dessus, alors que Jean-Luc Mélenchon n'est ni candidat, ni futur Premier ministre, que c'est quelque chose qui est totalement impossible. Et donc, il faut arrêter de s'enfermer là-dedans. Il faut juste dire ce qui est aujourd'hui. C'est qu'on a un Rassemblement national qui présente des candidats qui disent que l'avortement est un génocide. On a un Rassemblement national qui présente des candidats avec des casquettes néo-nazis. Et quand on leur met en face, ils sont obligés de les dégager. On a un Rassemblement national qui promeut des politiques qui sont contre les droits des femmes, contre les droits des travailleurs, contre la démocratie. démocratie, qui veulent supprimer le service public RFI intégré, et qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de savoir ce qui est plus dangereux. Et pour ma part, je dis très clairement, ce qui est dangereux, c'est le Rassemblement national, c'est pas finalement une coalition qui porte un projet de progrès et dans laquelle je suis, qui s'appelle le Nouveau Front Populaire, et c'est pas non plus des députés, même si j'ai combattu leur politique, qui sont dans le camp macroniste, que je considère comme républicain.
Et d'ailleurs, si ça se voit dans les désistements, donc je le disais tout à l'heure, alors qu'il est 124 candidats de gauche du Nouveau Front Populaire ont fait savoir qu'ils se désisteraient. Vous nous avez donné quelques exemples tout à l'heure. Merci Arthur Delaporte d'avoir été en ligne avec nous. Député en ballotage donc dans la deuxième circonscription du Calvados. Du côté du camp présidentiel, il y a 69 désistements et la ligne officielle est moins claire face à l'extrême droite. Pourtant, la perspective de voir le Rassemblement national accéder au pouvoir, remporter la majorité absolue dimanche, inquiète beaucoup dans de nombreux secteurs et notamment à l'hôpital. Le Rassemblement national a inscrit dans son programme le principe de la préférence nationale qui vise notamment à réserver certains emplois aux ressortissants français. Bonjour Nathanaël Vitran.
Bonjour Anne.
C'est problématique pour l'hôpital public parce qu'à l'hôpital, on dépend beaucoup des médecins étrangers.
Oui, presque un médecin sur trois à l'hôpital a été formé hors de France, pour la moitié d'entre eux dans un pays extérieur à l'Union européenne. Dans le jargon, on les appelle les PADU, des docteurs en médecine ou en pharmacie, parfaitement opérationnels, mais qui travaillent au moins au départ sous un statut étudiant payé 1 500 euros, donc beaucoup moins qu'un médecin français. En échange, il y a la promesse que leur diplôme puisse un jour être reconnu en France.
Mais ça ne se passe pas toujours comme ça.
Non, ils ont 2 ans pour passer l'examen qui doit leur permettre de faire reconnaître leur diplôme. Ils ont le droit à 2 tentatives seulement, sauf qu'il y a systématiquement 2 tiers d'échecs. Pourquoi ? Écoutez, Éric Tron de Bouchonny, les médecins hospitaliers à la retraite, c'est lui qui suit le dossier pour la CGT.
Ce sont des échecs qui ne sont pas dus à la faible valeur des PADU, ils sont reconnus très généralement par leur chef de service. Ce sont des échecs qui sont dus à l'insuffisance de postes mis au concours. Et ça, c'est un gâchis terrible. En l'absence des PADU, notre système de santé s'effondre.
En fait, il y a un quota arbitraire fixé pour ne pas faire concurrence aux médecins formés en France. Alors que je rappelle ce chiffre, il y a aujourd'hui 15 000 postes de médecins non pourvus à l'hôpital. Ça veut dire que chaque année, des milliers de médecins en poste se voient refuser le droit de continuer à exercer alors qu'ils sont indispensables, comme l'avait reconnu lui-même Emmanuel Macron en janvier dernier.
Je demande donc au gouvernement d'envisager des solutions plus radicales pour mettre fin au scandale des déserts médicaux, en assumant de régulariser nombre de médecins étrangers qui tiennent parfois à bout de bras nos services de soins et que nous laissons dans une précarité administrative qui est complètement inefficace.
Et donc, qu'est-ce qui a été fait, Nathanaël ?
Alors, un nouveau statut facilitant leur recrutement temporaire a été imaginé. Mais voilà, à cause de la dissolution, on attend toujours le décret qui devait lui donner vie. On va prendre un exemple concret, Anne. Zaineb, elle est marocaine, diplômée de la faculté de médecine de Casablanca. Elle est arrivée en France en plein Covid. Et aujourd'hui, elle est médecin radiothérapeute oncologue dans un hôpital du nord de la France. En janvier, alors qu'elle avait une patientèle, que tout le monde était satisfait de son travail, elle s'est retrouvée sans contrat.
Alors la direction de l'hôpital voulait bien me garder, mais c'est juste qu'ils n'avaient aucune manière légale de le faire, sachant que j'ai travaillé quand même à l'hôpital pendant 3 mois, mais sans titre de séjour, comme si de rien n'était, je voyais mes patients alors que j'avais pas de papier. Hein.
Et depuis, elle a obtenu un titre de séjour temporaire, elle peut continuer à exercer, mais seulement jusqu'en avril prochain.
Et que prévoit le Rassemblement national pour ces médecins ?
Alors, dans le programme de Marine Le Pen en 2022, il était écrit noir sur blanc le souhait du RN de réduire drastiquement le recours aux médecins ayant obtenu leur diplôme hors de l'UE, sans vraiment dire comment. Après notre entretien, Zaineb m'a renvoyé un message.
Donc, je travaille dans l'Aisne et c'est le département où il y a eu un record de votes en faveur du Rassemblement national, que ce soit aux élections législatives ou aux élections européennes. On est à des taux supérieurs à 50%. Ça fait un patient sur deux, un collègue sur deux qui a voté en faveur du Rassemblement national. J'ai l'impression que même mes collègues, ils ne réalisent pas que je suis étrangère. Je ne suis même pas binationale, je suis médecin étranger. Et donc ces mesures discriminatoires et cette montée de xénophobie va me toucher directement.
Et pourtant, dit-elle, tous ses collègues, tous ses patients l'ont soutenue lorsqu'elle a risqué l'expulsion en début d'année. Comme si l'étranger, ça ne pouvait pas être aussi la personne qui vous soigne.
Nathanaël Vitran, et les médecins étrangers ne sont pas les seuls à s'inquiéter dans ce contexte inédit en France. Les marches des fiertés ou marches des visibilités avaient une tonalité très particulière cette année. On y a vu de nombreuses pancartes contre le Rassemblement national, de nombreux appels de groupes LGBT pour voter pour le nouveau Front populaire à gauche. Beaucoup de Français, homosexuels, bi ou trans, s'inquiètent de voir le regain de haine et de violence qui les vise. Écoutez le reportage à Strasbourg de Viloen Munoz-Boileau.
Dans les loges du Petit Tigre, un bar du centre-ville de Strasbourg, une dizaine d'artistes drag se préparent pour leur show. Assise devant un miroir, Miskin termine son maquillage. Ce drag queer strasbourgeois craint que ce ne soit son dernier spectacle si le Rassemblement national sort gagnant des législatives.
Peut-être que demain, on ne pourra plus faire des shows comme celui-là. Parce qu'on aura peur pour nos vies, parce qu'on aura peur de se faire tabasser en sortant, parce qu'on aura peur d'avoir des dessins de groupuscules fascistes dangereux. Qu'on ne pourra pas se protéger nous, mais qu'on ne pourra pas non plus protéger notre public.
Miskin fait partie de House of Diamonds, l'un des collectifs drag strasbourgeois à l'origine de l'appel à faire barrage à l'extrême droite. Signé par près de 600 collectifs et artistes drag à travers la France, ce texte dénonce une banalisation de la violence à l'égard de toutes les personnes minorisées et l'impute au parti de Marine Le Pen.
Chaque pourcent que le Rassemblement National gagne, c'est des agressions supplémentaires. Moi j'ai des amis qui là, particulièrement depuis les européennes et la dissolution de l'Assemblée Nationale, se font de plus en plus insulter dans la rue. Donc ouais, clairement on a peur.
Dans le public ce soir-là, plusieurs membres de la communauté LGBT partagent cette inquiétude, comme Léon, jeune homme gay en visite depuis Paris.
La dernière chose que j'ai entendue et qui, moi, personnellement, m'a fait peur, c'était l'agression de trois personnes du GUD, le syndicat d'extrême droite, à Paris, envers une personne LGBT. Et ils ont dit ouvertement que dans trois semaines, ils pourraient tabasser des gays ouvertement.
Même sentiment chez Cécile, une étudiante libanaise qui a fui son pays, le Liban, où elle était persécutée en tant que lesbienne.
Je suis venue pour prouver ta sécurité, mais en France, je ne suis pas en sécurité, pas du tout. J'ai toujours peur de m'afficher devant les gens et je reçois beaucoup d'harcèlement physique et moral.
En 2023, SOS Homophobie a en effet constaté une nette hausse des agressions physiques anti-LGBT. Pour Flora Guiros, présidente de La Station, une association pour les personnes LGBT+, à Strasbourg, Emmanuel Macron est en partie responsable de cette situation.
Notamment, on a pu voir Macron qui qualifiait d'ubuesque cette proposition du Front populaire visant à changer le genre sur les papiers d'identité. La façon dont ça a été dit par le président encourage une panique morale pour essayer de gagner les voix de l'extrême droite. Ça, pour nous, ça a été extrêmement violent.
Depuis les européennes, l'association de Flora Guiros multiplie les actions pour sensibiliser aux dangers que représente le RN pour les LGBT.
Le RN, là où il est présent dans les mairies, on voit les associations LGBT qui voient leurs subventions coupées. Et très clairement, le RN dit qu'il va combattre l'idéologie LGBT, dit qu'il va interdire la PMA aux couples lesbiens, par exemple. Et nous, ce qu'on voit bien, c'est que dans les autres pays où l'extrême droite est arrivée au pouvoir, on peut pas en penser à la Pologne, en fait, c'est un recul énorme du droit pour les personnes LGBT.
Et de mettre en garde, une fois que le mal est fait, revenir en arrière s'avère beaucoup plus compliqué. Viloen Munoz-Boileau, Strasbourg, RFI.
À Strasbourg, comme à Paris, il est 13h22.
RFI Midi.
Notre question d'environnement aujourd'hui, se dirige-t-on vers un énorme scandale de trafic d'huile de palme ? C'est ce qu'on pourrait penser en lisant une enquête de l'ONG Transport et Environnement. Et on en parle avec vous, Igor Strauss, bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Alors que le secteur aérien utilise de plus en plus d'huile de cuisson usagée pour faire du diesel bio ou du bio-kérosène et donc se décarboner, une étude récente montre que certains pays exportateurs d'huile de cuisson la remplacent frauduleusement par de l'huile de palme pour la revendre en Europe, où, on le rappelle, cette huile de palme est interdite.
Exactement. L'Europe consomme aujourd'hui 130 000 barils d'huile de cuisson usagée par jour, soit 8 fois plus que ce qu'elle parvient à collecter dans les restaurants. Elle doit donc importer cette huile à des pays comme la Chine et la Malaisie. L'ONG Transport et Environnement a donc analysé les données de marché de ces deux pays avec des résultats troublants. La Malaisie exporte ainsi 3 fois plus d'huile que ce qu'elle déclare collecter. Quant à la Chine, ces données de collecte et d'exportation sont comparables, mais les chiffres de la collecte devraient être supérieurs pour prendre en compte la consommation chinoise de ces huiles. Pour l'ONG, ces incohérences prouvent avec quasi-certitude qu'il y a fraude, une fraude qui devrait même s'intensifier à l'avenir, selon Jérôme Duboucher de Transport et Environnement.
On voit que le problème risque de s'aggraver dans les prochaines années parce que le secteur aérien prévoit de consommer de plus en plus de carburants alternatifs, de SAF. Et aujourd'hui, le SAF le moins cher et celui qui demande le moins de technologies coûteuses, c'est le SAF qui est produit à partir d'huile de cuisson usagée ou de graisse animale. Donc, il y a une énorme pression sur cette ressource et qui risque de continuer et de s'aggraver dans les prochaines années.
La demande européenne en huile de cuisson usagée est bien plus importante en fait que sa collecte.
Oui, pour vous donner un exemple, la compagnie aérienne Ryanair veut que 12,5% de ses vols se fassent avec des carburants durables d'ici à 2030. Mais pour atteindre cet objectif, il faudrait que Ryanair utilise 100% de l'huile collectée en Europe. La demande en huile de cuisson usagée est telle que l'Europe importe 80% de ce qu'elle consomme, profitant des contrôles assez laxistes. Eh bien, certains en profitent donc pour la remplacée par de l'huile de palme, interdite en Europe, car issue de la déforestation.
Mais alors, quelle est la solution ?
Eh bien, pour Jérôme Duboucher, de transport et environnement, il y a une évidence.
On n'est pas contre l'huile de cuisson usagée en tant que molécule pour faire des biocarburants, mais ce qu'on propose, c'est de ne pas permettre d'en importer, parce que toutes les régions du monde auront besoin d'huile de cuisson usagée pour fabriquer des carburants alternatifs. Donc, comme c'est une ressource très limitée, autant qu'elle reste dans la région où elle est produite pour être consommée. Et ça limite drastiquement les risques de fraude, parce qu'on voit que la fraude, elle se fait à l'international.
Alors la consommation est telle que limiter les importations, ça va être compliqué. L'autre solution proposée par Jérôme Duboucher, eh bien, c'est de développer les carburants de synthèse à base d'hydrogène vert, Anne. Vous savez tout.
Igor Strauss, pardon pour notre question d'environnement, j'ai mélangé les lettres. Question d'environnement à retrouver tous les jours dans RFI matin et RFI midi.
RFI midi.
Nous vous emmenons maintenant au célèbre festival d'Avignon, le grand rendez-vous du théâtre dont le directeur Thiago Rodriguez fait jouer en ce moment la troupe de la Comédie française dans une pièce qui s'appelle Écube, pas Écube. Combinaison du récit d'Euripide rejoint par moments de l'histoire d'un enfant autiste victime de maltraitance. Il en parle au micro de Muriel Malouf.
Bonjour Thiago Rodriguez.
Bonjour.
Vous croisez l'histoire d'Écube, reine de Troie, réduite à l'esclavage dans la tragédie d'Euripide, avec celle de Nadia, qui se bat contre l'institution qui maltraite son fils autiste, tiré d'un fait réel. En quoi les deux femmes se répondent-elles ?
Ça m'est venu parce que j'ai observé en Suisse, à Genève, un scandale qui s'appelle le scandale du foyer de Mancy, sur des maltraitances d'enfants porteurs d'autisme profond dans un foyer de l'État, alors que j'ai découvert qu'une des comédiennes avec qui je travaillais à Genève était la maman d'un de ses enfants et elle portait plainte. Et j'étais bouleversé par la façon comment elle faisait des allers-retours entre une pièce qu'on répétait, qui était question de récit de souffrance, et comment elle faisait des allers-retours entre cette souffrance représentée et sa souffrance réelle. Et là, je me suis dit comment l'art peut consoler. Et alors, l'idée m'est venue de l'histoire d'une comédienne qui s'appelle Nadia, qui est aussi maman d'un enfant qui était maltraité, qui porte plainte et qui est en train de répéter une pièce. Et la question s'est posée, quelle pièce ? Et immédiatement, c'était genre 2 minutes, Écube, évidemment, d'Euripide, parce que c'est cette pièce sur la colère d'une mère qui exige justice pour son enfant assassiné par un ami.
Pour revenir à l'histoire de Nadia, elle se bat pour protéger son fils vulnérable et elle pointe en premier la défaillance de l'État. Ce sont les plus vulnérables qui sont en première ligne quand l'État faillit, pour vous ?
Évidemment, il n'y a personne qui éduque un enfant tout seul. C'est pour ça qu'il faut le service public. Il n'y a personne qui peut soigner un malade tout seul. C'est pour ça qu'il y a l'État. Quand il y a une défaillance de l'État, quand il y a des réductions brutales de budget dans un secteur de l'État, par exemple, les premiers qui souffrent sont ceux qui ont le plus besoin du collectif.
Bisous, pas bisous. Toilette, pas toilette. Dormir, pas dormir. Chocolat, chocolat.
Pour cette pièce, vous dirigez pour la première fois les comédiens de la Comédie française. Comment s'est fait le travail ?
Et moi, je trouve que le plus grand hommage que je peux rendre à cette maison et à la façon dont j'ai été accompagné dans ce projet, c'est que toutes ces dimensions lapidaires qui me responsabilisaient, tous ces emblèmes, ouais, ils sont importants et il faut les tenir parce qu'ils sont aussi des idées de service public. Mais à la fin, ça ne peut pas encombrer le plaisir de faire du théâtre et c'est ça que j'ai ressenti tous les jours.
Alors la carrière de Boulbon, justement, c'est le cadre pour votre pièce, une carrière désaffectée en pleine nature, en dehors d'Avignon. En quoi ce lieu a-t-il nourri la pièce ?
la falaise, la monumentalité minérale et en même temps végétale de ce paysage, elle est chargée d'une austérité, d'une belle austérité, qui est vraiment pour moi le décor ultime de la tragédie grecque, avec cet espace vide, cette grandeur où on se rappelle à quel point sont relatives nos souffrances, parce qu'il y a un monde beaucoup plus large. Et c'est vraiment pour moi un espace qui a énormément nourri l'imaginaire.
Merci Thiago Rodriguez.
Merci.
Je crois que nous avons tenu notre pari de parler essentiellement de théâtre en ce festival qui s'ouvre en pleines élections.
Et si jamais on a glissé vers d'autres préoccupations, c'est des préoccupations qui préoccupent aussi le théâtre, car le théâtre est en contact avec tout aspect de la vie, depuis Euripide jusqu'à aujourd'hui.
Puisse l'art vous consoler.
Et nous donne force et espoir.
Merci.
Merci.
Oh, she may be weary. Them young girls, they do get weary.
Thiago Rodriguez au micro de Muriel Malouf et Victor Hull à Avignon.